Eh oui, bah oui, mais moi aussi j'étais aventurier autrefois, et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Ouais, je sais, je téléphonais avec un jeu de société E.T., mais tu sais, c'est pour la référence, quoi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur 12 par sec, la chaîne de l'à peu près. Aujourd'hui, on va parler de l'un des films les plus parsékiens de l'histoire de la chaîne, Ready Player One. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que comme vous devez très certainement le savoir, Ready Player One a marqué les esprits, notamment par le nombre de références hallucinantes que l'on peut voir tout au long du film. Des références au cinéma, aux jeux vidéo, à la musique, à la pop culture en général. Exactement comme dans les vidéos de 12 par sec, dans lesquelles je me fais toujours un malin plaisir de cacher tout un tas de références et d'easter eggs. Et, mes très chers amis et abonnés, si c'est pas le cas, abonnez-vous, hein, il ne nous reste que quelques jours pour atteindre les 300 000 abonnés avant la fin de l'année, les gars. On compte sur vous. À l'approche de Noël, j'ai décidé de vous faire deux cadeaux. Tout d'abord, on va encore une fois vous placer un grand nombre de références dans cette vidéo. Il y en a déjà eu, hein, même avant que je vous le dise, là, depuis quelques secondes, il y en a déjà eu au moins deux ou trois. Et même si le petit rond violet que j'ai mis dans la dernière vidéo pour marquer les références, pour vous aider un petit peu, ça a été plutôt bien reçu. J'ai décidé de pas le mettre cette fois-ci, sinon il y en aura vraiment beaucoup, il y en aura même trop. Ça pourrait peut-être gâcher un peu l'expérience du visionnage de la vidéo. Donc voilà, il n'y est pas cette fois, mais qui sait, peut-être qu'il reviendra. Et surtout, messieurs damn, j'ai l'honneur et le plaisir, et même ça, c'est une référence, R.I.P. Monsieur Kari Hiroyuki Tagawa, Chang Tsung dans Mortal Kombat, Yoshida dans les griffes du dragon rouge, de me faire accompagner dans cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle mission, par le meilleur d'entre nous. Le seul et unique capitaine du Nexus 6.
Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur 12 par sec, je suis le capitaine.
Soleil sur vous, oui, oui. C'est... Alors, comment il va le capitaine?
Mal.
Mais si, tout va bien, tu vas voir. Ah ouais, on ne va dire que du bien de ce chef-d'œuvre. T'es d'accord?
Non.
Parfait. Allez, c'est parti, on attaque dans le dur. Alors attention, préparez-vous à n'importe quoi. Bien, alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts pour Noël?
La réponse est non.
Eh oui. Est-ce que vous avez fait tous vos cadeaux pour Noël?
La réponse est non.
Et est-ce qu'il serait pas cool de se prendre un joli petit t-shirt 12 par sec?
La réponse est non.
Ah, bah oui, mais on sait bien qu'il est très difficile de trouver un cadeau qui marque les esprits, et pas un truc qui finit au fond d'un tiroir et qu'on ressort une fois par an sans faire exprès. Alors si vous aimez les beaux objets, si vous cherchez des artefacts rares et des vrais objets de science-fiction, laissez-moi vous présenter les overpens de Novium. Regardez-les vraiment. Est-ce qu'on dirait pas un objet qu'on vient de débloquer au dernier niveau d'un RPG? Dans Ready Player One, par exemple, ça c'est un objet qu'on trouverait posé entre un sabre laser et une relique volée d'Indiana Jones. Ça, c'est l'overpen interstellar, un stylo qui lévite. Oui, il flotte sous vos yeux. Parce qu'on est en 2025, les gars, et qu'un stylo posé sur votre bureau comme ça, c'est tellement 1995. Il existe en plusieurs couleurs et finitions. Space Black, Mars Magma, Neptune Blue et Starlight Silver. Là, rien que les noms, on dirait des skins légendaires. Et pour les vrais fans, il y a le boss final. L'édition premium en or 18 carats. Et il y a même une version avec un véritable éclat de météorite à l'intérieur, certifié et tout. Hey, il y a un truc tombé de l'espace dans votre stylo. Attendez, mais vous avez ça posé sur votre bureau, mais vous gagnez plus 1000 en charisme. Il est incliné à 23,5 degrés, comme l'axe de rotation de la Terre. Attendez, si ça, c'est pas une référence de ouf? Je suis sûr que le scénario de Ready Player One a été écrit avec ce stylo. Mais savez-vous seulement que l'overpen interstellar a été élu comme l'une des meilleures inventions design de 2022 par le magazine Time? Et si vous préférez avoir un côté un petit peu plus modulable, vous avez aussi l'overpen Future, un stylo 2-en-1, plume et roller interchangeables, disponible en Deep Black, Frost Silver et Mist Blue. Ça, c'est un petit peu le couteau suisse élégant et futuriste. Quoi. C'est un stylo qui remet immédiatement en cause la légitimité de tous les stylos autour. L'overpen, il regarde les autres stylos et il leur dit
« Vous n'avez pas honte ?»
Ça, les gars, c'est un cadeau d'exception. Rare, classe et utile. C'est une clé qui vous ouvrira un portail vers de nouveaux mondes, l'écriture où les seules limites seront votre imagination. En cliquant sur le lien dans la description ou avec le code à peu près, vous aurez 10% de réduction sur tout le site. Je l'ai déjà dit et je le redis encore, la vie, c'est comme un jeu vidéo. Avec les meilleurs artefacts, on va plus vite et plus loin. Merci beaucoup Novium d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Ready Player One, sorti en 2018, est le 34e film de Steven Spielberg. Il en a encore fait deux depuis, hein, ce qui porte le nombre de ses longs-métrages à 36.
Hein? Tant que ça?
Eh oui, il y en a encore un qui est prévu l'année prochaine. Entre parenthèses, je n'ai même pas présenté le capitaine du Nexus 6, hein, parce que je me suis quand même dit que vous devriez le connaître toutes et tous. La chaîne YouTube Nexus 6, hein, spécialisée dans le cinéma de science-fiction. Ils ont même fait un court-métrage récemment qui est absolument génial, que je vous mets en description. On en dira quelques mots à la fin de la vidéo. Ready Player One est l'adaptation du roman Player One de Ernest Klein, le type qui a écrit le scénario de Fanboys, un film pour tous les amoureux de Star Wars.
Et d'ailleurs, Fanboys était déjà un film qui multipliait les références. À Star Wars, bien sûr, mais aussi à Star Trek.
Ah. Vous avez une amende d'incrédit pour infraction au code de moralité du langage.
Quoi ? Mais j'ai dit un gros mot ?
Bah t'as dit Star Trek.
C'est un gros mot, Star Trek ?
Ah bah c'est le pire de tous ! Et donc Ready Player One est le film avec le plus grand nombre d'easter eggs de l'histoire. Même la date de sortie du film est un easter egg puisque le film est sorti le 28 mars 2018, donc le week-end de Pâques. Dites-moi capitaine, est-ce que on passe un petit peu de temps à parler de toute la partie, vous savez, making-of du film, un petit peu d'où c'est que ça vient l'idée, et puis tout ça, pitou.
Bah ce serait quand même pas mal d'en dire un petit mot. Enfin après je sais pas moi, c'est ta chaîne.
Non, mais si, oui.
Oui ou non.
Non, oui.
Déjà, la pré-production de Ready Player One débute très tôt, dès 2010, lorsque Warner Bros. Acquiert les droits du roman d'Ernest Cline avant même sa parution. Une pratique étonnante qui montre à quel point ils étaient convaincus de son potentiel, mais ils sont aussi conscients du défi colossal que représente cette adaptation. Le livre, comme on l'a dit, est saturé, c'est le mot, on y reviendra, de références et de licences appartenant à de multiples studios. Un vrai casse-tête juridique. En 2015, l'arrivée de Steven Spielberg sur le projet débloque les choses. Le bon Stevie est à lui seul un symbole des années 80 et 90, période bénie des millennials nostalgiques. Il constitue donc un choix logique pour réaliser ce film, car il est légitime de par tout ce qu'il a créé par le passé.
Et en plus, on le sait pas forcément, mais c'était un peu un gamer, le Steven. Il a déjà dit plusieurs fois en interview qu'il kiffait grave les jeux vidéo.
Dans un déconné.
Et c'est surtout un excellent réalisateur, même si ses derniers films sont plus... moins... marquant, dirons-nous.
C'est moins qu'on puisse dire.
Le projet lancé, il supervise ensuite une longue phase de préparation technique, centrée sur la capture de mouvements, afin de tourner les scènes de l'Oasis comme de véritables séquences filmées avec une caméra virtuelle. Un peu comme ce qui a été fait pour Avatar, quoi. Tout en coordonnant la création de centaines d'environnements numériques par ILM, Digital Domain ou Territory Studio. Bref, une pré-production longue d'environ 2 ans. Il participe également à la réécriture du scénario et à l'adaptation du récit pour qu'il soit plus cinématographique, et en recentrant les thématiques du film sur l'équilibre entre réalité et virtuel. On sent bien que Spielberg revient à ses premiers amours, avec un blockbuster de science-fiction ambitieux, techniquement novateur, et cohérent avec sa vision humaniste du divertissement. En gros, l'alliance entre un fun assumé et ambition réflexive.
On retrouve dans les rôles principaux le jeune Ty Sheridan, qu'on avait pu voir en Cyclope dans X-Men Apocalypse, la très jolie Olivia Cooke, qu'on a pu voir aussi dans la série House of the Dragon. Il faut toujours prononcer le nom de la série comme ça.
Ben Mendelsohn, qu'on a vu aussi, bien sûr, en Orson Krennic dans Rogue One, et d'autres comédiens et comédiennes comme Mark Rylance qui incarne James Halliday, le créateur de l'Oasis, mais aussi son collègue, joué par Simon Pegg, qu'on ne présente plus.
Alors, bien sûr, et comme d'habitude, les différences avec le roman sont assez nombreuses. Déjà, dans le roman, l'auteur Cline fait de nombreuses références à Spielberg, références que Spielberg a lui-même enlevées car il voulait pas passer son temps à s'auto-référencer à longueur de film. Dans le roman, les personnages ne vont pas dans le film Shining, mais dans Blade Runner, un petit film pas terrible qui a un petit peu passé inaperçu parce que c'est vraiment pas intéressant.
Quoi ? Mais lui, là, il a pas une amende d'un crédit aussi pour avoir dit une connerie pareille ?
Bah non, parce que Blade Runner, c'est pas une insulte.
Blade Runner, non, mais toi, si, à l'intelligence humaine.
Spielberg a aussi un peu simplifié le récit. Dans le film, les joueurs doivent juste trouver 3 clés, alors que dans le livre, ils doivent aussi trouver les 3 portes qui correspondent. Et puis, il y a plein d'autres trucs aussi, plein de différences, mais on n'a qu'à dire qu'on s'en fout.
Mais sinon, t'en as pensé quoi, toi, du film ?
Eh bah écoute, à mon grand étonnement, pas grand-chose, au final. Je pensais que j'allais ultra kiffer, tu vois, je veux dire. Et de toute façon, en bon fan de pop culture, j'ai kiffé. La surabondance de références, ça m'a pas dérangé plus que ça. Étant moi-même assez fan du concept, hein, bien sûr. Et c'est certainement aussi le fait que j'en ai vu qu'un dixième de tout ce qu'il y avait, parce que, vraiment, il y en a beaucoup plus que vous le pensez, c'est limite s'il y en a pas une dans chaque plan. Mais bizarrement, au final, je m'a laissé un petit peu indifférent, quoi.
Ouais.
J'ai kiffé, hein, non, j'ai kiffé, hein, j'ai plus kiffé que pas kiffé. Mais j'ai pas kiffé, tu vois ?
Pas vraiment, non.
Et toi, t'as kiffé ?
Alors, moi ?
Rapide.
Oui, bah 2 minutes, non ? Hein, on est pressé ?
Non, on n'est pas pressé, mais de toute façon, vas-y, moi je vais aller pisser en attendant.
J'ai pas aimé.
C'est tout ?
Non, mais je développerai pendant l'émission.
Allez, on lance le film ! Et c'est hyper, avec un jeune con qui sort de chez lui.
Jeune con, tout de suite, quoi, carrément.
Et oui, tout de suite, il faut pas perdre de temps. On commence donc en 2045, à Columbus, dans l'Ohio. Et on découvre les piles, Stax en anglais. Stax, qui est le titre d'un morceau absolument magnifique de Bon Iver, je l'écoute tout le temps. C'est mon réveil.
Ça compte comme une référence, ça ?
Non, parce que je l'ai dit, donc non, c'est les références, il faut pas les dire. C'est aux gens de les trouver.
Oui, mais les gens...
Oui, non, alors attention, parce que non, il ne faut pas oublier l'éthique de la chaîne. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
Et on découvre Wade Watts, qui sort de chez lui, et on voit à chaque étage des gens qui jouent à ce qu'on pense être des jeux vidéo, tous avec des casques de réalité virtuelle. Et oui, car c'est bien de ça dont il va être question dans le film. Tout le monde cherche à fuir la réalité, fuir les problèmes, échapper à cette vie devenue plus terne, morose et inintéressante qu'un nouveau film Star Wars.
Je suis né en 2027, après la pénurie de sirop de maïs, après la guerre de la bande passante, après que les gens ont arrêté de résoudre les problèmes et se sont contentés de faire avec.
On va rien dire là sur le fait que c'est vraiment nul comme problème sociétaux. Pourquoi pas la grande crise des calendriers de Noël? Ou encore le conflit turco-yéménite des cartes graphiques? Bon, après, c'est pas étonnant venant de l'adaptation d'un bouquin de merde écrit avec les pieds.
De quoi?
Oui, le bouquin, tu l'as lu?
Bah non, pourquoi faire?
Bah pour rien, de toute façon il est à chier. C'est l'un des pires trucs que j'ai lu de ma vie. J'ai tenu 50 pages.
Mais c'est pas censé être de la littérature jeunesse?
Mais littérature jeunesse, ça veut pas dire écrit avec les pieds et sous acide. Et même dans cette catégorie, c'est de la grosse merde.
Oh putain, je sens qu'il va râler toute la vidéo. De toute façon, ça peut pas être pire que PH. Bref, voilà comment on présente le monde dans lequel on vit. Les gens ont arrêté de régler les problèmes. Ah mais ça, ça nous pend tellement au nez, les gars, sans déconner. De toute façon, pour plein de gens, c'est déjà comme ça que ça se passe, hein, quand tu regardes bien. Moi, par exemple, vous voyez, bah, j'ai aussi arrêté de résoudre les problèmes, quoi.
Mon cœur, je suis enceinte.
Vous voyez, voilà, c'est ça, par exemple, je m'en fous, ça m'intéresse pas, quoi. Je ferai avec, quoi.
Et là, Wade, il s'équipe avec des trucs qui ont l'air hyper cool. Et il court dans tous les sens avec son tapis omnidirectionnel. On va pas se mentir, il a quand même bien l'air con.
Et là, les gars, vous êtes prêts? Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle. Et c'est parti pour le voyage ultime dans l'Oasis, un monde totalement virtuel où tout est possible.
Un endroit où les seules limites de la réalité... c'est notre imagination.
Et oui, et comme l'imagination est sans limite...
le monde est sans limite.
Wade nous explique que dans l'Oasis, tout existe et on peut tout faire. Il y a la planète vacances pour faire du surf, la planète où tu peux faire du ski sur les pyramides. Pourquoi pas? Écoutez, je vois pas trop l'intérêt.
Mais... c'est clair. Et alors, escalader l'Everest avec Batman, ça c'est encore plus bidon.
Bah pourquoi?
Mais parce que... pourquoi avec Batman? Moi je veux pas escalader avec Batman. Je veux être Batman à la limite, à Gotham City et toutes les autres conneries. Mais pourquoi se geler les miches avec lui sur l'Himalaya? C'est vraiment le genre de délire geek que le film n'arrête pas de balancer comme ça sans que ça ait aucun sens. C'est juste de la ref pour la ref. Ça sert à rien à part faire bander les gosses.
T'es sûr de celle-là?
C'est mal sorti.
Oui, bah fais un peu attention s'il te plaît, parce qu'on est sur une chaîne sérieuse ici. Bon, enfin voilà, il y a 1 milliard de trucs à faire, 1 milliard d'endroits à visiter. Et surtout, là où c'est vraiment cool, c'est que tu peux prendre l'avatar que tu veux, bordel. Tu peux être qui tu veux. Tu seras qui, toi, capitaine?
Mais j'en ai rien à foutre. Y a que les gens perdus dans leur vie qui veulent être quelqu'un d'autre. Indiana Jones. Je serai Indiana Jones. Et toi, tu serais qui?
Ah bah moi, ça fait aucun doute non plus. Je serais Krillin. Comme ça, je pourrais me choper ces 18, bordel.
Non mais là, ça n'a rien à voir. Ça marche pas comme ça, c'est juste des avatars. Ils sont pas en couple. Si ça se trouve, t'as C-18, là, ce serait un gros routier russe de 58 ans qui fait Moscou-Lisbonne toutes les semaines dans son camion sans se laver.
Arrête, ça m'excite. Et donc voilà, c'est parti pour le festival des références. Il y a des dizaines de personnages qu'on a tous déjà vus quelque part. T'as regardé celui-là, là, il me dit quelque chose, lui.
Non mais c'est Robocop.
Ah oui, c'est ça, oui. Bah tiens, j'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs.
Et c'est la meilleure de ta chaîne.
Ah bah... pour une fois, c'est pas moi qui le dis.
Non, mais c'est toi qui l'écris.
Et le voilà, Parzival, ou Zed, avec sa démarche de jeune trou du cul et sa coiffure de boys band. Alors lui, il m'énerve déjà. Je l'ai dit, sa coiffure, elle ressemble un petit peu à celle de Trunks, et ça, ça veut dire qu'il m'énerve moins.
J'aimerais pas être Trunks, moi. Enfin, si, mais ça doit être un peu chiant quand même d'avoir une mère aussi gironde.
Je suis d'accord. D'ailleurs, tu crois qu'entre Bulma et Sangoku, il y aurait pas eu...
Et on découvre aussi son meilleur pote dans l'Oasis, Ash, qui se trouve sur la planète Doom, l'endroit le plus dangereux de l'Oasis. Et oui, on dit dans l'Oasis parce que Parzival et Ash ne se sont jamais rencontrés dans la vraie vie. Ils ne connaissent pas leur véritable identité. C'est un mystère.
Ou Bulma et Sangohan, peut-être. Je suis sûr qu'il y a eu quelque chose. Dans l'histoire de Trunks, il y a eu un truc. Bon, il n'y avait plus personne à part eux, attends. Il aurait tort de se priver, hein. Petite séquence pour nous montrer que tout le monde joue partout et tout le temps. À la maison, en terrasse, même au boulot, tu vois. D'ailleurs, lui, il veut carrément suicider parce que son personnage est mort. Alors, c'est vrai qu'on se demande un petit peu comment le mec peut être en train de jouer alors qu'il est au boulot, tu vois. Son patron lui dit rien.
Bah, c'est peut-être lui le patron.
Bah, c'est bizarre, il serait pas en plein milieu de tout le monde à bosser sur les mêmes ordi que les autres.
Peut-être qu'il est là incognito, personne le reconnaît, tu vois.
Ah, bah, ça, de toute façon, les Chinois, pour les reconnaître.
Quoi?
Quoi? Regarde, il y a Léo et Raph qui viennent de passer, là. Et là, il y a Doc, là, regarde. Putain, il est Renoir. Il y a un Doc Renoir. C'est excellent. On peut même changer les skins, t'es assez terrible. Et en plus, c'est plus pratique pour se camoufler dans le noir.
Cet accord devient de plus en plus impossible.
Et là, il y a une grosse course qui se prépare. C'est la course de la mort qui tue sa race. Si vous pensiez que les courses de Matrix, Mad Max, Speed Racer ou le livre de Boba Fett étaient des courses vraiment vénères, alors là, vous avez rien vu.
Ah, effectivement, avec la course-poursuite du livre de Boba Fett, on n'a vraiment rien vu. Et de toute façon, les rares choses qu'on a vues, on aurait préféré ne pas les voir.
L'Oasis est la création de James Halliday. Avec son associé Ogden Morrow, il a lancé la première version de l'Oasis en 2025.
Et oui, dans cette histoire, l'Oasis a été lancé cette année, en 2025. C'est fou, je trouve, parce que dans les films de Spielberg, on t'annonce souvent des technologies, tu sais, de malades, de trucs révolutionnaires, mais qui sont toujours annoncées à des années absolument pas réalistes. Dans Minority Report, par exemple, vous vous souvenez, il y a des voitures autonomes qui roulent à toute vitesse sur les routes verticales, là. Bah ça, c'est annoncé en 2054. Dans 30 ans, tu vois.
Et bah franchement, je veux pas vous spoiler, mais ça sera pas pour tout de suite.
Et puis, le 7 janvier 2040, il est mort.
C'est la boulette. Le dieu est mort. Le grand créateur n'est plus.
Ah si si, moi je suis toujours là.
Pas toi, on s'en fout.
Moi je te parle du vrai dieu, le seul et unique James Halliday.
Et du coup, puisque Halliday est mort, est-ce qu'on sait si David et Laura toucheront quelque chose?
C'est pas sympa ce que tu fais. Franchement, c'est pas cool.
Mais avant de mourir, Halliday avait tout prévu. Il dit à tout le monde qu'il a caché un objet quelque part dans l'Oasis et que celui qui le retrouvera récupérera ses 500 milliards de dollars ainsi que le contrôle total de l'Oasis.
Est-ce que tu penses que ce serait pas par hasard une référence à One Piece quand au début de l'histoire, Goldie Roger, le roi des pirates, dit avant de mourir qu'il a caché un trésor dans le monde et que celui qu'il trouvera sera richissime et deviendra le roi des pirates?
Bah, à ton avis, clairement, ça n'a rien à voir.
Ouais, non, ça n'a rien à voir. Non. Et pour trouver ce trésor, il faut d'abord trouver trois clés qui ouvriront trois portails magiques. Le portillon magique.
Et pour gagner la première clé, il faut terminer une course impossible à finir. Et ce n'est pas les gars de chez IOI qui vous diront le contraire.
C'est qui les gars de chez IOI?
Ce sont les employés de l'entreprise du même nom qui essaient à tout prix de récupérer les trois clés et qui sont prêts à tout pour y arriver grâce à leur petit salopard de patron.
Une tête de nœud qui s'appelle Nolan Sorrento.
Eh oui, alors lui, il a une bonne tête de vieux méchant tout pourri là, tu sais, qui veut faire son boss, alors que je suis sûr que tu sais, il trempe encore son petit pain au chocolat dans son Nesquik à 4h. À mon avis, ce mec là, je suis sûr, il met des slips.
Et des chaussettes Spider-Man, c'est sûr.
Allez, c'est parti, on se met sur la ligne de départ. Parzival enfourche sa DeLorean. Alors là, il y a gavé de voitures connues qui viennent de films ou autre chose, on le sait, on va pas toutes les citer.
On peut quand même citer l'Interceptor de Mad Max, et surtout le chef-d'œuvre, la perfection, la légendaire...
Mia Khalifa.
Moto de Canada dans Akira, bordel.
Ah oui, pardon, Allez, attention, et c'est Darty, mon kiki. Avec Edge qui prend immédiatement la première place, suivi de très près par les Sixers de IOI. Mais attention, on a déjà un premier accident, capitaine.
Eh oui, mais on a pas le temps de s'arrêter, Ash sort l'artillerie lourde pour se dégager le passage, tandis que Parzival et la conductrice mystère sont au coude à coude.
La course croule sous les attaques de l'impitoyable créateur James Halliday. Il y a des héros dans tous les camps, le mal est partout.
Avec une audace stupéfiante, la mystérieuse motarde arrive à hauteur de Parzival, qui pense la reconnaître.
Je crois que c'est Artemis.
La Artemis?
Eh oui, la Artemis. Hein. On sait pas qui c'est, mais elle a l'air d'envoyer du lourd.
Et nous assistons donc à une course absolument incroyable, un véritable carnage automobile, avec encore une fois énormément de références que certains trouveront super fun, alors que personnellement, j'ai surtout l'impression de voir un tas d'icônes qu'on a vidées de leur sens, sacrifiées sur l'autel du fanservice pour satisfaire des spectateurs consommateurs qui pensent que pour faire du grand cinéma, il suffit d'utiliser ce genre de procédé facile et gratuit.
Non mais attends, mais moi je kiffe grave tout ça.
Qu'est-ce que je disais? Heureusement, la scène est incroyablement dynamique, et surtout claire et lisible. L'action est toujours au centre de l'écran, et à aucun moment on est perdu. Malgré le fait que ça soit un foutoir total, supplément gloobie-boulga numérique à la con, c'est un miracle qu'on y comprenne quelque chose. Bravo à Spielberg, dont la mise en scène version gamer fonctionne ici vraiment à merveille.
Et attention, Parzival arrive à la fin, il va enfin franchir la ligne d'arrivée. Mais ah là 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 là, c'est notre cher ami King Kong en personne qui vient l'écraser comme une merde. King Kong, hein, le singe géant qu'on a pu voir de nombreuses reprises au cinéma, notamment sous la direction de Peter Jackson en 2006, capitaine.
Et attention, Artemis arrive à son tour à fond les ballons, mais Parzival, qui sait que King Kong est là, se met en travers de la route et attrape le bras d'Artemis. Normalement, il aurait juste dû lui déboîter l'épaule et la sauve ainsi du crash inévitable, ce qui leur permet de faire enfin connaissance.
Et là, on voit vraiment que le challenge est impossible, c'est-à-dire que même si tu conduis parfaitement, la course est conçue pour te baiser. Il y a des trains et des camions qui arrivent pour t'écraser, un T-Rex qui te bouffe quand tu passes à côté de lui, King Kong à la fin qui détruit tout ce qui approche de l'arrivée. C'est littéralement une course que tu ne peux pas gagner. Un peu comme le test de Kobayashi Maru dans Star Trek.
Attends. T'es en train de parler de Star Trek, là?
Oui, mais pas longtemps. Non, j'en parle jamais plus de 2 minutes parce que sinon je vomis.
Ouais. Moi, ça me fait ça avec Prometheus.
Et donc voilà, ce test dans Star Trek, c'est un test qui est conçu pour te faire échouer. On en avait parlé dans la vidéo sur Star Trek.
Attends. T'as fait une vidéo sur Star Trek?
J'ai pas fait exprès.
T'as aucune valeur, en fait.
Et du coup, on comprend aussi pourquoi personne n'a jamais trouvé la clé en 5 ans. Parce que c'est hyper difficile et qu'il faut réfléchir autrement et qu'il faut être beaucoup plus intelligent que ça. Halliday, c'était pas un tocard, hein, même s'il en avait clairement la gueule.
Allez, petite scène de rencontre officielle entre Parzival et Artemis dans le hangar de H. Alors là, c'est le festival de référence. Entre celles qui sont simplement mises en arrière-plan et celles que Parzival nous fout carrément sous le nez pour bien nous montrer que, regardez, vous avez vu? On vous place plein de références à des vaisseaux de SF parce que c'est cool! Putain, mais qu'est-ce que ça m'énerve! D'ailleurs, il y a le swordfish de Cowboy Bebop là posé sur la table, hein, et il le cite même pas, ce con! Ça me rend fou!
Mais calmez-vous, capitaine!
Je suis très calme!
On comprend que Parzival kiffe grave Artemis, alors qu'elle a quand même relativement rien à carrer.
Elle dit surtout qu'elle est prête à tout pour empêcher Sorrento de trouver les clés et prendre le contrôle de l'Oasis. Sorrento n'est pas un homme de morale. Sorrento ne peut pas régner. Sorrento ne doit pas régner.
Allez, Artemis se barre, Parzival aussi, et là on voit une pub pour la nouvelle combinaison X1 qui te fait ressentir tout ce que tu vis dans l'Oasis. Pour le meilleur comme pour le pire.
Chaque coup, chaque
peigne, chaque balle, vous ressentez tout.
Alors, autant je comprends que ça peut être cool de mettre cette combinaison si tu as par exemple sur la planète Marc Dorcel.
Ou sur Zegema Beach et Vaginax. Alors là, moi, je pars pas sans ma combinaison.
Autant je vois pas bien l'intérêt de ressentir aussi tous les coups que tu te prends, quoi. Parce que dans le film, c'est surtout ça qu'on va voir. Clairement, les mecs qui ont la combinaison, ils vont plus jongler que le contraire. T'imagines, le challenge pour avoir la première clé, c'est de refaire la scène de DiCaprio qui se fait défoncer par l'ours dans The Revenant. Ah là, la combinaison X1, même si tu me l'offres, là, je te la rebalance dans la gueule. Non mais c'est un jeu, quoi. Faut que ça reste un jeu. Merde, putain, chiotte.
Parzival va voir dans le journal de Hallyday pour aller fouiller dans ses souvenirs. Il se dit qu'il trouvera peut-être un indice sur comment faire pour gagner la course. Il y a des milliards de joueurs, mais il n'y a que lui qui a eu l'idée de faire ça.
Bah en fait non, il dit qu'il y a plein de gens qui ont essayé, mais ils ont tous abandonné parce que personne ne trouvait rien.
Tu parles, arrête de défendre ce film. Il n'a aucune excuse. Il y a des milliards de joueurs, statistiquement, il devrait être des milliers à avoir trouvé la réponse.
Bah oui, mais sinon il n'y aurait pas eu de film enfin.
Ah bah oui, alors là, c'est sûr.
Quoi ?
Rien.
Et là, Parzival s'intéresse à un souvenir d'une conversation entre Hallyday et Moreau, dans lequel Hallyday dit qu'il n'aime pas l'évolution que prennent les choses et qu'il aimerait bien pour une fois revenir en arrière.
Marche arrière, à toute vitesse, à la vitesse de l'éclair. Le pied appuyé sur le champignon.
Et voilà, marche arrière, le pied appuyé sur le champignon. C'était ça l'indice.
Quoi ? C'est tout ? C'était ça l'indice ?
C'était ça l'indice.
Et personne n'avait pensé à faire ça en 5 ans.
Bah tu aurais pensé toi ?
C'est la première chose à laquelle j'aurais pensé.
Bien sûr, oui, parce que toi t'es parfait, c'est ça ?
Oui.
Dis donc, on n'avait pas dit dans le contrat que tu serais pas trop dur avec le film ?
Je change les termes du contrat. Sois heureux que je ne les change pas davantage.
Allez, c'est reparti pour un tour, sauf que cette fois, Parzival ne va pas faire comme tout le monde. Il va partir dans le sens opposé en marche arrière. Et la truc de ouf, qu'est-ce qui se passe, capitaine ?
Eh ben, il y a une trappe qui s'ouvre et qui lui permet cette fois de passer sous la course et d'éviter tous les obstacles. Il passe sous le T-Rex, sous King Kong, et enfin, il arrive à finir la course. Eh oui ? C'était ça, fallait juste y penser. C'était pas si compliqué que ça en fait.
Alors, je sais pas si c'est une référence, mais moi ce truc là, de gagner la course en partant en marche arrière pour aller faire un truc caché, ça me rappelle grave la course Frappe Snowland dans Mario Kart 64, où au départ de la course, fallait que tu fasses demi-tour, que tu partes en arrière pendant que tout le monde partait en avant, que tu passes le pont, que tu retournes sur tes pas, que tu sautes dans la neige sans toucher la piste, que tu passes la ligne d'arrivée, et que t'ailles dans le décor pour te faire récupérer par le petit nuage qui te reposait sur le pont. Sauf qu'avec le bug du jeu, ça te faisait déjà faire un tour complet. Et donc, il te suffisait de refaire ça 3 fois de suite et tu gagnais la course en 30 secondes. Les autres n'avaient même pas le temps de finir le premier tour.
Mais qu'est-ce que c'est que ce raccourci à la con ?
Non mais ça c'était un truc de ouf mec, ça c'était vraiment pour les connaisseurs. Et du coup, Zed réussit enfin à obtenir la toute première clé de l'Oasis.
Et aussi 100 000 pièces qui vont lui permettre d'acheter quelques trucs cool, comme le cube de Zemeckis, encore une référence bien sûr, et aussi la fameuse combinaison X1. Comme ça, quand il va se prendre un bon coup de pied dans les burnes, il aura mal même dans la réalité. Quelle affaire, n'est-ce pas ?
Pendant ce temps, Sorrento va rendre visite à un ami mystère du nom de IROK, ou IROK, qui est bien badass aussi, hein, pour récupérer un objet magique, une orbe.
Il génère un bouclier magique impénétrable que seul un sortilège peut briser.
Eh ouais !
Pas mal !
Et surtout, Sorrento charge son ami d'une mission, éliminer Parzival. Il est même pas capable de le faire par lui-même, il est obligé de demander à quelqu'un d'autre de le faire.
Un peu comme toi qui fais monter tes vidéos par des monteurs maintenant.
Oui, non mais moi c'est différent, moi. C'est parce que j'ai plus le temps de les monter, moi.
Bah peut-être que lui, il a pas le temps de s'occuper de Parzival non plus.
Dis donc, tu serais quand même pas en train de défendre le film là, par hasard ?
Moi ? Mais jamais de la vie ! Oh mais qu'est-ce qu'il est con, ce Sorrento ! Il peut pas s'en occuper tout seul ! Mais quel méchant de merde !
Ah, je te reconnais mieux, là.
Oui, pardon, j'ai une petite absence.
Allez, Artemis finit la course aussi, Edge arrive juste derrière, et on découvre aussi Daito et Sho, deux potes de Parzival, ceux qui reforment donc le club des 5. Dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne grosse référence à quelque chose, là.
Ah non, non, je te rassure, ça fait pas longtemps du tout, c'est juste que t'en as pas vu, mais il y en a dans tous les plans, enfin à peu près.
Ouais. Bah n'empêche que moi je trouve qu'il y en a pas du tout assez.
Bon bah allez, pour te faire plaisir, Parzival entre dans un bâtiment et là tout le monde le reconnaît et lui saute dessus. Et surtout, Goro, que tout le monde aura reconnu puisqu'il s'agit d'un des boss de Mortal Kombat.
J'ai fait une vidéo sur Mortal Kombat, hein. Allez la voir. Hein.
Et
c'est tout.
Et Goro attrape Parzival pour parler avec lui, sauf que devinez qui voilà, le chessbuster d'Alien. Eh oui, on n'avait pas encore eu de référence à Alien, voilà qui est fait.
J'ai fait une vidéo sur les deux, hein, Alien 1 et Aliens le retour.
Ouais, enfin, si tu comptes le dire à chaque fois, tu vas le dire beaucoup, vu qu'il y a des références à tous les films de SF les plus connus. Hein.
Bah je comptais pas le faire, mais puisque tu l'as dit, je le dirai à chaque fois.
Ouais, enfin, heureusement que je fais pas pareil, parce que je te rappelle que moi, je parle que de science-fiction, donc j'arrêterai pas de te couper. Hein. Bref, l'Alien était en fait Artemis, qui dit à Parzival qu'il est devenu super connu, et qu'il doit maintenant dissimuler son identité.
Les lunettes de Clark Kent, elles cachent ton identité sans changer ta tête.
Putain, mais c'est à chaque plan, quoi.
Ouais, non, là, j'avoue, c'est un peu chiant, là. Même moi, qui d'habitude en mets beaucoup, là, je trouve que c'est trop, là.
Titre. Non, mais c'est clair. Rendez-vous compte que là, cette référence, elle ne va être utilisée que dans un seul plan. Pour qu'il passe incognito dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Et le plan d'après, il l'enlève. Sans décoller, est-ce que c'était vraiment utile de nous montrer ça? Je pose la question. Non mais on ne peut pas poser la question.
Et là, dans un autre souvenir, on apprend que Hallyday a eu un rencard avec une meuf. Ce qui étonne énormément Parzival et Artemis. Bah et non, s'ils sont vraiment étonnés à ce point, ça veut vraiment dire que l'autre c'était un gros bouffon. Hein. Ah mais encore une fois, hein, l'image que ça renvoie des geeks, je te jure. Si ça se trouve, il a même fini puceau. Hein. Comme Jean Valjean dans Les Misérables. Tiens d'ailleurs, ils n'ont pas fait référence aux Misérables.
Non, et heureusement d'ailleurs.
Est-ce qu'elle t'a donné son nom?
Oui. Kira, je te l'ai dit, comme le personnage de Dark Crystal.
Oui, bon, d'accord. Mais Dark Crystal, c'était pas mal, attends. C'était Frank Oz, quand même.
Le film était bien, la série moins.
Ouais, moi non plus, je l'ai pas terminé.
Et là, on apprend que la fille avec qui Hallyday a eu un rencard est devenue par la suite la femme de Morrow, son associé. Ce qui a certainement rendu la situation un peu tendue entre les deux.
Oh bah, je comprends, attends. T'imagines si ton pote, il te piquait ta meuf, toi? Moi, je pourrais pas le supporter. Hein. Quoi?
Rien.
Quoi?
Rien.
Mais quoi?
Mais rien.
Ça va, il te dit qu'il y a rien. Il te l'a dit trois fois en plus.
Ouais, mais trois fois rien, ça fait déjà quelque chose. En tout cas, j'espère que tu m'as pas fait un truc comme ça, PH.
Non, mais rien. J'ai rien fait.
Ok, bon. De toute façon, je sais que je peux te faire confiance.
Artemis donne elle aussi un rencard à Parzival dans une super boîte de nuit. Oui, on a vu qu'il y avait des poules là, merci. Sauf que Herok a été prévenu de sa présence. Et comment me direz-vous? Bah parce qu'il prend des selfies avec les gens qui le reconnaissent. Le truc qu'on voulait éviter dans la scène précédente avec les lunettes de Kent. Ça prouve définitivement que c'était juste là pour la rêve de merde.
Et là, bon... C'est une boîte de nuit, tu vois. Ils sont en date, et bien à un moment donné, ils vont danser. Et alors, est-ce que ce serait pas le moment de nous placer une autre petite référence?
Mais bien sûr que si! C'est toujours le moment de nous placer une petite référence!
Bon, mais une petite alors. Faites-nous quelque chose de discret, hein, sinon ça va se voir. On attend de vous de la subtilité, s'il vous plaît, monsieur Spielberg. Mais c'est génial!
C'est de la merde!
C'est trop bien!
C'est trop nul! Mais c'est ça la subtilité spielbergienne! Bon, après c'est du même niveau que le bouquin, hein? Comme si on nous prenait la gueule et qu'on nous l'enfonçait au maximum dans une marmite de références grasses et dégueulasses.
Oh, tu dis ça parce que t'es en colère!
Non, je suis très calme. Tout va très bien.
Et là, Artemis le chauffe bien comme une bonne petite...
Elle me rappelle une andraxienne que j'ai connue dans ma jeunesse. Ah, les émois des premiers flirts. Ça rappelle des souvenirs.
Ah bah c'est clair, attends, c'est bien pour ça que Parzival il en peut plus le bordel. Il a le kiki tout dur. Et là, il va commettre la boulette. Il va lui dire son vrai nom.
Moi c'est Wade.
Quoi?
Et voilà, encore un neuneu qui se fait avoir. Dans cet univers, il y a deux règles quand on est en boîte. 1. Ne jamais accepter un week-end dans une maison de campagne avec une meuf chelou.
Quoi?
Et surtout, il ne faut pas dire son nom, bordel! C'est le meilleur moyen de se faire choper dans la réalité. Wade, arrête tes conneries, reprends-toi, bordel!
Je suis amoureux de toi.
Ah là 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 là!
À la boulette.
Mais voilà, le mec est tombé amoureux d'elle, alors qu'il ne la connaît même pas, et qu'il ne l'a jamais vue en vrai.
Bah, il a eu le coup de foudre, hein.
Tu crois au coup de foudre, toi?
Bah, moi, je crois plutôt au coup de rein, mais... En tout cas, c'est clair que là, il va bien vite en besogne. Mais qu'est-ce que vous voulez, ouais, c'est... C'est l'amour, hein, l'amour ça rend con. Et notre capitaine en est le meilleur exemple.
Ça veut dire quoi ça?
Eh ben ça veut dire exactement ce que ça veut dire.
Dis donc, je te rappelle que toi aussi t'es capitaine, hein? Monsieur Yann Solo, capitaine du Millennium Condor. Avec Chic Taba là.
C'est vrai, je suis aussi capitaine, oui, mais je préfère te laisser le titre. Le vrai capitaine, c'est toi.
Merci beaucoup mon ami, ta modestie t'honore. Et toi du coup, il faut t'appeler comment?
Ben, en tant que grand gourou de la 12 Parsect, il faut m'appeler sa sainteté Parsec 12.
Waouh, le taré.
Et attention, tous à couvert, les soldats de IOI débarquent et foncent.
Charge brutale sans que personne les annonce.
Les deux tourtereaux sont pris au piège, mais Parzival va sortir son arme secrète, le cube de Zemeckis. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une toute petite référence assez subtile, hein, il faut bien regarder, à Retour vers le futur. Mais vraiment là, c'est caché, là, il faut être observateur. Là.
Moi, j'avais pas remarqué. Et d'ailleurs, je me pose une autre question aussi. Pourquoi le temps recule pour tout le monde, sauf pour Parzival? Bon, alors là, ça peut se comprendre, vu que c'est lui qui l'a acheté, mais le temps ne recule pas non plus pour Artemis. Pourtant, elle, techniquement, elle a rien à voir avec le cube.
Bon, c'est fini les questions gênantes, là, comme ça. Arrête de t'en prendre à ce film. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Et du coup, ça permet aux jeunes de s'enfuir, sauf que là, Artemis est pas content.
Elle explique que son père est mort à cause de IOI, qui a augmenté ses dettes et qu'il n'a pas pu rembourser.
IOI n'a fait qu'augmenter ses dépenses, il a été malade. Il pouvait plus sortir, il est mort dans leur centre.
Et alors? C'est pas de la faute de Wade?
Non mais Artemis lui reproche de ne pas prendre la cause au sérieux.
Tout ça parce que son père est mort. Bah, franchement, il en fait un peu trop. Hein. Là, c'est un jeu. Hein.
Non mais là, c'était dans la réalité.
Ouais bah n'empêche qu'elle se casse et lui, il se retrouve tout seul. Et ça encore, c'est rien parce que maintenant, Sorrento sait qui il est et où il habite. Et il va carrément aller tout faire péter et boum, truc de ouf. Le mec tue tous les habitants de l'immeuble.
Mais heureusement, Wade n'y était pas, car sa petite installation est quelques blocs plus loin. Comme c'est pratique. Il est donc toujours en vie, mais il vient de perdre sa tante, la seule famille qui lui restait, et dont on se fout, soit dit en passant, vu que le film ne prend jamais la peine de créer un truc sympa entre les deux personnages. Il y a juste une engueulade où elle le menace de le virer. Donc autant dire, qu'on s'en bat les steaks, qu'elle soit morte. Et Wade aussi, apparemment, puisqu'il s'en remet très vite et tente de prévenir ses amis. Mais il se fait aussi kidnapper par un mec de 2m10 et 120 kg qui était caché derrière le siège.
Détecterais-je un sarcasme, capitaine ?
Non, pas du tout, voyons. Et Wade se réveille non pas chez IOI, mais en face de la jeune et sémillante Samantha, la fille qui se cache derrière Artemis.
Et ça, c'est très bien, parce que ça nous permet d'enfin voir Olivia Cooke, qui est, je me permets de le rappeler, très jolie. Et là, je pense que Wade, en la découvrant, doit être un petit peu soulagé, quand même. Bah attends, il aurait pu tomber sur un pauvre type dégueulasse, tout boutonneux et tout, hein.
C'est marrant, ça. On a l'impression que tu parles en connaissance de cause. Ça t'est déjà arrivé, un truc comme ça, non ?
Alors, à moi non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui pensaient tomber sur une jolie jeune fille très entreprenante et même un petit peu sale, tu vois. Ben, c'est vrai qu'ils ont dû être assez déçus en me voyant. Ouais. Et là, Samantha, elle a l'air d'être un peu gênée parce qu'elle a une tache de naissance sur le visage. Et c'est vrai que c'est quand même dégueulasse. Hein.
Ah ouais, mais n'importe quoi, elle est magnifique.
Oui, non mais évidemment qu'elle est mignonne, elle est hyper jolie. Je dis juste que...
Bon là, on va avancer un peu. Samantha et Wade comprennent que le deuxième indice se cache dans le lieu du rencard où Hallyday n'a pas franchi le pas avec Kira. Vous savez, celle qui deviendra la femme de son associé. Et ce rencard, il a eu lieu au cinéma, en allant voir Shining.
Pur choix de film pour le rencard. Tu m'étonnes que la meuf fasse sous la barre en courant. Y'a vraiment que les geeks pour faire ça.
Et Wade et toute l'équipe doivent maintenant se rendre à l'intérieur du film Shining pour trouver l'indice. Et les voilà, dans le hall du fameux hôtel Overlook.
Et là, je dois dire qu'au cinéma, c'était quand même plutôt classe. Pour le coup, je trouve l'idée de revisiter un classique du cinéma d'horreur assez séduisante. On va redécouvrir tous les moments cultes du film à travers les yeux de Edge, le seul qui n'a pas vu le film et qui va donc avoir super peur.
C'est effectivement l'une des scènes que j'ai trouvées moins merdique. Mais faut pas se leurrer, c'est juste parce que c'est super bien fait. Ça nous met dans un état de sidération qui empêche un peu d'avoir les idées claires à ce moment-là. Et j'avoue qu'en tant que grand fan de Blade Runner, j'aurais bien aimé voir ce que cela aurait donné.
Ah, bah voilà!
Juste voir, hein. Je suis sûr que j'aurais râlé au final.
Pour changer. Et là, ils arrivent tous dans la salle du bal, et ils voient Kira qui danse au milieu des zombies, et Artemis va devoir la rejoindre en sautant de zombie en zombie pour pas tomber dans le trou.
J'espère que tu vas pas oser dire que cette scène est géniale.
Alors, non, pas là, non. Non, là, j'avoue que c'est un peu chelou. Je me rappelle très bien qu'au cinéma, je m'étais demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Déjà, y a pas de zombies dans Shining.
Apparemment, les zombies viendraient d'un énième jeu vidéo, Mayhem Mansion ou un truc du genre. Encore une référence à un bidule que seules 3 personnes dans le monde connaissent.
Et Artemis arrive à libérer Kira des zombies et réussit à choper la deuxième clé. Bravo ma chérie, c'est toi la meilleure, je le savais depuis le début.
C'est vrai qu'elle envoie un peu quand même la copine là, hein. Parce que pendant ce temps, chez IOI, c'est la panique générale. Tout le monde est mort de peur et ils se font tous avoir par les zombies du film.
Mais il y avait des zombies dans Shining ?
Toujours pas, non.
Bon là c'est la merde parce que le quartier général de Samantha est attaqué et ils sont obligés de fuir. Allez dépêchez-vous, fuyez pauvre fou !
Salopard de rebelle !
Samantha dit à Wade de se barrer parce que l'Oasis a besoin de lui, et elle se rend.
Et pendant ce temps, Wade fait enfin la rencontre de toute l'équipe en IRL. Ash, Daito et Cho, Ash de son prénom, Hélène. Et oui, ce gros molosse de 2m20 était une jeune femme. Disons que la surprise est minime, il y avait à peine 12 000 indices à la seconde pour nous le faire comprendre.
Alors, personnellement, je savais pas.
Oui mais toi, qu'est-ce que tu savais, toi ?
Bah, je savais que c'était pas une bonne idée de faire cette collab.
Artemis se retrouve donc emprisonnée par IOI et contrainte de faire du travail forcé pendant que les Sixers essayent de trouver la dernière clé. Et pour ça, ils doivent terminer tous les jeux de l'Atari 2600. Et il y en a des milliers.
L'Atari 2600, la fameuse console des années 80, la plus connue de sa génération. Alors, moi je l'ai pas eu parce que j'étais trop jeune, mais bordel, qu'est-ce que j'aurais kiffé jouer au jeu E.T. sur cette console. Je crois que c'est le jeu qui a été décrit comme le pire jeu vidéo de l'histoire. Le JDG a fait une vidéo dessus en 2011. Et même 14 ans plus tard, elle est encore fun à regarder.
Et pendant ce temps, Sorrento active l'orbe qui génère un bouclier infranchissable qui leur permet d'être les seuls à pouvoir essayer d'avoir la troisième clé.
Comment ils ont su que c'était là qu'il fallait aller pour obtenir la troisième clé ?
Eh ben tiens-toi bien, le film ne nous l'explique pas.
Ah.
Ouais, apparemment il n'y avait plus le temps pour ça, donc on s'en bat les couilles. En tout cas, ils vont réussir à pirater l'installation de Sorrento parce que ce con a écrit son putain de mot de passe sur un putain de post-it sur son putain de siège et que Wade l'a vu quand il est venu dans son putain de bureau un peu plus tôt dans ce putain de film.
Mais putain ! Alors... De toutes les choses qui peuvent être plus ou moins cons dans le film, celle-là, pour moi, c'est la pire. Le patron de la boîte qui met son mot de passe sur un post-it sur son siège, à la vue de tout le monde, et qui invite son pire ennemi dans son bureau pour lui proposer un deal, mais qui oublie d'enlever le post-it. Ça, c'est fort, ça. C'est très très fort.
Et pourquoi il avait besoin d'un mot de passe, d'abord ? Le truc scanne son visage. Pourquoi il utilise juste pas ça comme mot de passe ? Bordel, mais ça existe sur iPhone depuis 2017. Ils sont en quelle année, là ?
Eh ben, 2045. Ouais.
Wade et son équipe arrivent à libérer Samantha, qui leur conseille de lever une armée pour attaquer Sorrento et tous les Sixers pendant qu'elle va essayer de désactiver l'orbe grâce à une formule magique.
Et donc, ça m'étonne un petit peu que tu parles pas de la petite référence très sympa qu'il y a dans cette scène.
Bah, en fait, j'allais en parler, mais dans le texte de la vidéo, il y a d'abord toi qui me dis que ça t'étonne que j'en parle pas.
Ah oui, pardon, bah vas-y. Oui.
Effectivement, je dois avouer que toutes les références ne sont pas mauvaises ou placées maladroitement. Comme ici, lorsque Wade et Daito font croire à Sorrento qu'il est dans la réalité, alors qu'il est encore dans l'oasis. On peut voir des petites lueurs dans leurs yeux qui signifient qu'ils ne sont pas réels. Ce qui constitue une référence évidente, vous l'aurez compris, à ce chef-d'œuvre intemporel qu'est Blade Runner, dans lequel les réplicants, êtres artificiels, ont aussi une lueur dans les yeux.
Tu te rappelles que j'ai fait une vidéo sur ce film ?
Oui, je m'en rappelle, vu que je suis dedans.
Eh oui, t'étais là, ma poule. C'était évidemment pour la vidéo sur Blade Runner il y a 2 ans et demi. Quel honneur vous nous aviez fait, capitaine.
Tout l'honneur était pour moi.
Et donc, Sorrento, qui est quand même un peu moins con qu'il en a l'air, comprend qu'il est en train de se faire enfler. Il retire son casque et découvre que Samantha s'est échappée.
Et pendant ce temps, Wade, Shaw et Ash, qui s'est transformé en géant de fer, encore une référence bien discrète, appelle tous les joueurs de l'Oasis à venir empêcher Sorrento de s'emparer de la dernière clé et de mettre la main sur l'Oasis.
Et là, les potes, c'est le moment tant attendu. Le rassemblement international. Si vous pensiez que la scène des Avengers qui se réunissent tous pour affronter l'armée de Thanos était une tuerie, attendez de voir celle-là.
Attends, tu vas quand même pas dire que celle de Ready Player One est meilleure, j'espère. Bon, enfin, moi, perso, je déteste les deux, mais...
Non, elle est pas meilleure, mais par contre, en matière de personnages, là, il y en a 10 fois plus que dans Avengers. Avengers, c'est que Marvel. Mais cette fois, quand tout le monde arrive pour préparer l'offensive, il y a tous les univers. Cinéma, dessin animé, jeux vidéo, manga. Là, il va falloir faire pause à chaque plan pour repérer le plus de personnages possible. Ici, par exemple, il y a Batgirl, Spawn, c'est trippant, Spawn, le film était marrant, Musclor, un Gremlins et le Joker.
Mais on va pas faire pause à chaque plan, parce que sinon on y est encore dans 2 mois. Par contre, à mon sens, cette scène, elle résume vraiment tout le problème du film et sa relation avec les références qu'il nous impose. C'est juste gadget. Par exemple, si les capacités de chacun de ces personnages, ou armes, objets, véhicules, étaient vraiment utilisées pour venir à bout du bouclier, genre utiliser les capacités de voyage dans le temps de la DeLorean, qui serait du coup pas juste un skin de bagnole random, là ça aurait du sens. Mais ce n'est jamais le cas.
Non mais oui, d'accord, mais on n'a pas le temps là.
C'est bien ça le problème. Le temps. Le temps de prendre de la hauteur, de trouver du sens aux choses. Pas étonnant que la Terre se fasse botter le cul en 2039, hein.
Attends, quoi ?
Non mais j'ai pas le temps d'en parler. Allez, Artemis arrive à désactiver l'orbe, et là, on peut enfin ouvrir les fesses.
Activité ! Et c'est parti, c'est la guerre ! Yeah, mon enfant que ! Alors, bon, je kiffe quand même grave. À ce moment-là, j'ai 8 ans et je prends mon pied. C'est n'importe quoi, c'est un foutoir gigantesque. Il y en a de partout, on sait même pas où regarder. Et le problème, c'est que c'est même pas vraiment original, en fait. C'est-à-dire que, mis à part le fait qu'il y ait plein de personnages qu'on connaît, bah c'est quand même vrai que des scènes comme ça, en 2018, on en avait déjà vu des dizaines. Mais quand même, le concept de réunir plein de personnages de la pop culture, bah c'est un petit fantasme que t'as toujours eu un peu dans le coin de la tête et qui se déroule sous tes yeux. Donc c'est vachement sympa à voir. Capitaine, arrêtez de faire la gueule, là, on vous voit. Et avouez qu'il y a quand même des choses super cool dans le film.
Ok, c'est d'accord. J'avoue, il y a plein de trucs cool dans ce film, mais je les ai pas vus.
Et là, c'est trippant aussi parce qu'on voit tous les gens qui se battent dans la rue avec chacun son personnage. Il y en a, ce sont les Tortues Ninja, d'autres, ce sont les soldats du jeu vidéo Halo.
Et sinon, tu peux m'expliquer comment ils font tous ces mecs-là qui courent dans la rue pour pas se prendre un mur ou même un panneau dans la gueule ?
Bah, ils utilisent la force.
Ils utilisent mon cul, ouais.
Il y a un petit titre, là.
Et vu que pour Sorrento, ça sent le roussi, il se transforme lui aussi en Mechagodzilla. Comme ça, il peut atomiser tout le monde et surtout la DeLorean de Z et Arty.
Et c'est au moment où tout semble perdu, au moment où le méchant va anéantir les gentils, que Daito arrive à la rescousse.
Moi, je suis Gundam Deku.
Et là, mon gars, là, je peux te dire que les Japonais, ils étaient fans.
Ça tombe bien, parce que c'est pour eux qu'est fait la scène.
Oh, mais qu'il est pénible. C'est pas mortel de voir ça. Daito se transforme en robot de Gundam, bordel. Putain, mais c'est génial. Alors, nous, en Europe, on connaît pas trop ça. Il y en a qui connaissent, mais les fans, quoi. Mais là-bas, c'est une véritable institution. Le truc, c'est limite leur Star Wars à eux. Et en plus, c'est la première fois qu'on voit un robot Gundam dans un film en réel, bordel. Et quand on était à Tokyo il y a un mois avec PH, on a même été voir, ils ont une statue grandeur nature du robot. Eh, non, on a une statue Jeanne d'Arc et eux, ils ont Gundam. C'est pour ça, je vous dis, on en est dans la mauvaise culture. C'est un grand moment de cinéma.
Mais pas du tout. Mais bon, j'abandonne, j'ai dit pourquoi c'était nul, et j'en ai marre de jouer les rabat-joie. En plus, que ce soit bon ou pas, ça a le mérite d'être efficace, parce que Daito arrive à tenir tête à Godzilla, pendant que Z et Arty s'enfuient, mais il n'a que 30 secondes pour neutraliser Sorrento.
Putain, j'adore ce plan là, quand il bloque le pied de Godzilla. On a vraiment une énorme impression de gigantisme grâce à la contre-plongée, quoi. On est juste en dessous, comme ça, on voit des énormes trucs. Je trouve ça génial. Puis je sais pas, Gundam, le robot est tellement stylé.
Allez, grosse baston, Daito y passe, Mechagodzilla aussi, et Ash utilise son géant de fer pour créer un pont pour permettre à Arty, Z et Shaw d'entrer dans le château.
Sauf que Irock veille au grain et défonce Edge qui tombe dans la lave. Mais là, les gars, il y a la référence. Celle qui fait pardonner toutes les autres. Parce que celle-là, pour une fois, elle est plutôt bien placée, dans le sens où elle sert à quelque chose. Cho cherche dans son inventaire et nous sort l'étoile de Krull, bordel. Krull, le film de fantasy des années 80. Ah, ça fait des années que je l'ai pas vu celui-là, mais c'était bien marrant quand même. Tu l'as vu celui-là, capitaine?
Je l'ai pas vu depuis 310 ans environ. Allez, après une petite référence à Terminator 2, Z et Cho arrivent devant le jeu Adventure, dans lequel est cachée la clé. Mais Sorrento est là et menace de tout faire péter. Heureusement, Z sait parfaitement se battre, parce qu'il sait se battre, on l'a jamais vu se battre, mais là, d'un seul coup, le mec, il se transforme en Ryu de Street Fighter. Mais littéralement, hein. Hadouken !
Oh putain, alors ça par contre c'est nul.
Ah bah enfin, merci.
Ah oui, non mais là, à un moment donné, faut le dire, c'est nul. Alors après, je sais pas si c'est la VF qui rend le truc ridicule, mais là, non, ça rend vraiment pas bien.
C'est pas beaucoup plus épique en VO.
Et c'est dommage, parce que normalement, ça devrait hyper bien rendre. Mais là, non, trop c'est trop. Et là, Sorrento active la bombe de ouf qui détruit absolument tout. Tout le monde a perdu. Personne ne pourra trouver la dernière clé.
Sauf que Z avait une extra life. Il a encore une vie, et il va enfin pouvoir essayer de jouer à Adventure.
J'y comprends rien, on a essayé Adventure.
Non, on a essayé de gagner. Mais la pièce secrète n'est pas cachée à la fin du jeu. Il faut aller chercher le pixel invisible dès le début du jeu.
Ah bah super, bien joué madame la spécialiste. C'est que maintenant que tu t'en rends compte, t'sais, le truc a l'air hyper évident pour elle quoi. C'est en mode non mais attendez, vous avez pas compris quoi. Oui bah n'empêche que ça aurait peut-être été un peu plus intéressant de t'en rendre compte avant. Connasse.
Ah, c'est pas moi qui l'ai dit hein.
Non, là c'est moi là.
Parzival arrive à résoudre l'énigme du pixel perdu qui affiche le tout premier easter egg connu dans un jeu vidéo, le nom de son créateur, puis Hallyday apparaît pour lui donner la troisième et dernière clé.
Eh ben, c'était pas si difficile finalement.
Bon, t'as fini toi aussi avec tes références là?
Ah, tu l'as celle-là? Elle est pas facile.
Ghostbusters.
Exact.
Eh ben, c'était pas si difficile finalement.
Parzival se retrouve dans la chambre d'enfance de Hallyday qui lui donne enfin l'ultime easter egg.
Et Parzival obtient enfin la propriété et le contrôle de tout l'Oasis. Pendant que Sorrento qui les poursuivait n'a même pas été capable de les arrêter alors qu'il est pointé avec son gun. Clairement, je crois qu'on tient là l'un des méchants les moins charismatiques de toute l'histoire du cinéma. Même Scar et Jafar sont plus charismatiques que lui.
Bah attends, ils sont charismatiques de ouf, Scar et Jafar. Ils font clairement partie des meilleurs méchants de Disney.
Ah bah carrément, attends. En plus, Jafar c'est un petit peu Scar en humain, tu vois. Ou Scar c'est Jafar en lion, c'est comme on veut.
Et la police arrive enfin pour arrêter Sorrento, mais attendez. Il y a des flics dans ce monde? On n'est pas dans une pure dystopie cyberpunk? Il y a des services publics, un état qui fonctionne? Non mais je réagis parce que jusqu'à présent, on l'aurait pas dit, genre quand ils ont fait un putain d'attentat terroriste pour éliminer juste un gosse!
Ouais mais bon, les flics ils étaient en train de jouer aussi, ils étaient tous dans l'Oasis. Leurs avatars c'était Robocop, Judge Dredd, John McClane et Stryker de Mortal Kombat. Quatre films dont j'ai parlé sur ma chaîne.
Perso, j'aurais pris Martin Riggs, Harry Callahan ou Jim Gordon.
Et moi j'aurais pris Frank Drebin.
Ogden Morrow débarque après n'avoir absolument rien fait du tout pendant tout le film. On se rappelait même plus qu'il existait d'ailleurs.
Ah, c'est clair que lui, il était aussi utile qu'un trou du cul à cet endroit-là.
Attends, je l'ai, c'est là. Je l'ai, putain.
T'inquiète, ils l'auront dans les commentaires.
Mais nous aussi, on fait de la référence gratuite, parce qu'en fait, Morrow était là pendant le film sous la forme du conservateur. Un petit cliffhanger inutile, le film n'est plus à sa près.
Wade referme la porte, il s'envoie la fille, devant le petit Shaw qui a 11 ans, et au moment de signer les papiers, il ajoute
« Je partage avec mon clan, on va gérer ça ensemble. »
Putain, il est génial ce Wade, il est génial. Il est génial ou il est pas génial?
Oui, ça va dépendre de ce que ça donne.
Ah, c'est bien, il m'énerve. Et voilà, Wade et Samantha deviennent le couple le plus puissant du monde, et tout de suite, ils prennent une décision très importante.
On a décidé de fermer l'Oasis le mardi et le jeudi.
Comme ça, tous les gens qui ont leur jour off le mardi et le jeudi ou qui peuvent y jouer que ces jours-là, bah ils pourront plus jamais y jouer de leur vie.
C'est important que les gens passent plus de temps dans le monde réel, parce que la réalité est la seule chose qui soit réelle.
Et fin. Et voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire sur le film Ready Player One. Alors, vous avez kiffé ou pas?
Oh, j'ai adoré. C'est mon film préféré.
Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on remercie toutes et tous très fort dans les commentaires le capitaine du Nexus 6, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Au capitaine, mon capitaine.
Tout l'honneur était pour moi, merci à toi, et merci à vous, citoyennes et citoyens.
Mais dites-moi, capitaine, je vous aurais bien proposé une autre collab, mais je crois que vous êtes très occupé en ce moment. Me trompe-je?
Effectivement, si vous kiffez la science-fiction, et plus particulièrement le space opéra, on a sorti notre film, Les Aventures du Nexus 6, gratos sur YouTube, parce qu'on est comme ça, nous. Alors que ça nous a coûté 700 000 boules. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. En gros, c'est du Star Wars mélangé à Firefly, mais à la française et indépendant. Il y a de l'action, de l'humour, et je suis à poil dedans, hein. Avec tout ça, il n'y a aucune raison pour qu'à minima, vous passiez pas un bon moment. On a aussi sorti un documentaire sur la création de notre chaîne et du film qui s'appelle La Galère des Étoiles, parce que faire de la fiction sur le web, c'est exactement ça, une putain de galère. Ça parlera à toutes celles et ceux qui ont déjà créé ou ont eu envie de se lancer. Mais surtout, nous sommes sur un projet de jeu vidéo Nexus 6 pour explorer notre univers. Ce sera un jeu narratif à choix multiples, où vous incarnerez l'équipage du Nexus 6. On a lancé une campagne Ulule pour le financer, on est à environ 75% et on a vraiment besoin de vous pour aller au bout. Donc n'hésitez pas à aller voir et à soutenir ce projet si ça vous branche.
Ok, très bien, c'est noté, on va faire ce qu'il faut. N'oubliez pas aussi qu'en cliquant sur le lien dans la description ou avec le code à peu près, vous aurez 10% de réduction sur tout le site Novium pour vous offrir un artefact rare, un overpen. Bien, mes amis, c'est la fin de l'année, je vais vous laisser tranquille pour la semaine de Noël et je reviens normalement avec une ultime vidéo le 28 décembre. Ce sera une plus petite vidéo, plus courte que les autres, voilà, ce sera un dernier petit délire pour la fin de l'année. Je vous remercie toutes et tous énormément pour votre fidélité tout au long de l'année. Je remercie tous les anciens abonnés comme les nouveaux, que vous soyez là depuis les premières vidéos sur le système solaire il y a presque 9 ans, ou que vous soyez arrivés hier soir, vous faites désormais partie de la famille. Vous êtes toutes et tous des Parsekiens et Parsekiennes, adorateurs de la douce Parsecte. Je vous souhaite un très joyeux Noël, merci encore capitaine.
Merci à toi mon cher Solo, et joyeuses fêtes à toutes et à tous.
Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez toujours dans l'à peu près. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao !